Jack London, La Garce. Certaines histoires ne peuvent être que véridiques, et l'imagination féconde d'un écrivain ne saurait les avoir inventées de toutes pièces. De même, il semble impossible de mettre en doute la sincérité de certains individus. Julian Jones était de ceux-là. Plusieurs de mes lecteurs refuseront peut-être d'ajouter foi au récit qu'il me fit. Pourtant, je suis à tel point convaincu de la véracité que j'engagerai sans hésitation mes disponibilités financières dans la lointaine aventure dont il me parla. Je fis connaissance avec Julian Jones à Panama, lors de l'exposition du Pacifique dans le pavillon de l'Australie. Je considérais une collection de facsimilés de pépites de grosseur exceptionnelle découvertes dans les champs d'or des Antipodes. À leur aspect bossué, biscornu et massif, il semblait aussi difficile de les supposer factices que de croire les indications de poids et de valeur qui les accompagnaient. Alors, c'est ça que les chasseurs de kangourous appellent une pépite ? S'écria par-dessus mon épaule une voix sonore, juste devant le spécimen le plus impressionnant. Je me retournai et mon regard rencontra les yeux d'un bleu lavé de Julian Jones. Je levai la tête, car il arborait à une hauteur d'environ 2 mètres, une chevelure jaune ébouriffée dont la teinte paraissait aussi décolorée et passée que celle de ses yeux. Peut-être le soleil avait-il rongé sa couleur primitive. En tout cas, son visage témoignait d'un hâle ancien et profond. Lorsque, détournant son regard des objets exposés, il le fixa sur moi, j'y remarquais une expression bizarre, comme si l'homme s'efforçait de se rappeler un fait d'importance capitale. « Mais qu'est-ce qu'elle a, cette pépite ?» demandai-je. L'expression distraite et lointaine disparut. « Eh bien, ses dimensions, elles semblent de forte taille, » concédai-je. « Mais son authenticité ne fait aucun doute. » Le gouvernement australien oserait difficilement. « De forte taille, » interrompit mon interlocuteur avec dédain. « Mais c'est la plus grande qu'on ait jamais trouvée. »« Jamais trouvée !» Ses yeux pâles flamboyèrent et il poursuivit. « Voyez-vous que tous les blocs d'or découverts à ce jour soient cités dans les journaux et les dictionnaires ?»« Si certains n'ont pas été, lui fis-je sagement remarquer, je ne vois pas comment nous en aurions connaissance. Si une pépite est véritablement précieuse, ou plutôt... Celui qui l'a trouvée préfère que sa modestie n'ait pas à en rougir. Mais tel n'était pas le cas. Je l'ai vu de mes propres yeux, et de surcroît, je suis trop allé pour rougir sous aucun prétexte. Je travaille dans les chemins de fer et j'ai passé pas mal de temps sous les tropiques. Alors mon teint avait la couleur de l'acajou, le beau vieil acajou, et plus d'une fois, on m'a pris pour un espagnol aux yeux bleus. À mon tour, je l'interrompis. « Mais cette pépite était donc plus grosse que celle-ci, monsieur ?»« Jones, Julian Jones. » Il fouilla dans une poche intérieure et en tira une enveloppe à ce nom, adressée au bon soin du bureau central de San Francisco. De mon côté, je lui remis ma carte. « Enchanté de faire votre connaissance, monsieur » déclara-t-il en me tendant la main d'une voix forte, accoutumé au bruit violent ou au vaste espace. Parbleu, je connais votre nom. J'ai même vu votre portrait dans les journaux. Excusez ma franchise, mais vos articles sur Mexico ne m'ont pas du tout emballé. Comme tous les gringos, vous prenez le Mexicain pour un homme de race blanche. C'est une grave erreur. C'est Spigot, c'est latin américain à la peau grasse. Ne pense, ne raisonne, ils réagissent comme nous. Même leur table de multiplication diffère de la nôtre. Vous croyez que 7 fois 7 font 49 ? Eux pas, ils calculent autrement. Ce qui est blanc aux yeux n'est pas pour eux. Laissez-moi vous donner un exemple. Si vous achetez du café pour votre ménage par paquet d'une livre ou de 10 livres... Oui, mais quelle taille avait la pépite dont vous parliez ? Demandai-je exaspéré. Aussi grosse que la plus grosse de celle-ci ? « Plus grosse encore, » dit-il sans s'émouvoir, « bien plus grosse que toute leur fichue collection réunie. Il s'arrêta et fixa sur moi un regard décidé. « Pourquoi n'aborderais-je pas cette question avec vous ? Votre réputation est faite pour inspirer confiance. Et d'après ce que j'ai lu, vous avez bourlingué un peu partout. Voilà longtemps que je cherche un homme disposé à me comprendre. Vous pouvez vous fier à moi. » Je livre à mes lecteurs toute l'histoire telle qu'il me la raconta sur un banc au bord du lac, devant le palais des Beaux-Arts, aux cris assourdissants des mouettes. Tant pis, il n'aurait pas dû manquer à notre rendez-vous. Mais n'anticipons pas. Comme nous quittions le pavillon de l'Australie à la recherche d'un coin tranquille, une femme de petite taille, d'une trentaine d'années, au teint fané et à l'allure campagnarde, fonça sur lui à la façon d'un oiseau et s'accrocha à son bras avec la précision rapide et inexorable d'un engrenage de machine. « Alors, tu te trottes sans même penser à moi ?» glapit-elle. Je lui fus présenté dans toutes les formes. Ignorante de mon nom, elle me considéra évidemment sans enthousiasme, de ses yeux noirs rusés, rapprochés l'un de l'autre, aussi ronds et mobiles que ceux d'un perroquet. « Tu vas pas au moins lui parler de cette garce ?» ajouta-t-elle sur un ton de reproche. « Sarah, nous allons discuter affaires, » expliqua-t-il d'une voix excédée. « Depuis si longtemps, je cherche l'homme à même de me comprendre. À présent que je le tiens, j'ai bien le droit, ce me semble, de le mettre au courant de ce qui s'est passé. » Le brin de femme ne répliqua point, mais pinça les lèvres. Elle regarda devant elle la tour des bijoux, avec une mine si sévère que nul rayon de soleil n'aurait pu l'adoucir. Nous gagnâmes lentement les bords du lac, et à visant un banc inoccupé, nous nous assîmes avec un soupir de soulagement. « Ce qu'on peut se fatiguer à visiter cette exposition !» déclara la petite dame, presque avec défi. Deux signes soupçonneux quittèrent en se dandinant le miroir de l'eau et vinrent nous examiner. Convaincu de notre ladrerie ou de notre pauvreté en cacahuètes, ils s'éloignèrent. Jones tourna à demi le dos à sa femme et me raconta son histoire. « Jamais été en Équateur ? Alors suivez mon conseil, n'y allez pas. À moins que vous n'ayez assez de confiance en moi et de grand personnel pour risquer le voyage en ma compagnie. Car il n'y a pas si longtemps que j'y débarquais d'un charbonnier rouillé au cul sale. Il faisait ses 7 nœuds, quand tout marchait bien, mais nous eûmes un vent contraire et une avarie de machine au large de l'île de Pitcairn. Bon, je ne figurais point parmi l'équipage. Je suis mécanicien de locomotive. Mais je m'étais lié d'amitié avec le patron du bateau à Newcastle et j'accompagnais en copain jusqu'à Guayaquil. J'avais appris que les appointements montaient sur le chemin de fer américain qui va de cette ville à Quito en traversant les Andes. Or, Guayaquil, un trou à fièvre, glissai-je. Il m'approuva d'un signe de tête. Thomas Nast y est mort un mois après son arrivée. C'était un de nos grands dessinateurs américains. « Je ne connais pas, » conclut Julian Jones. « Mais il n'est pas le seul. Oh, j'ai été mal impressionné en arrivant dans le patelin. L'accostage du piloge se trouve à 60 miles en descendant le fleuve. « Vous en avez la fièvre ?» demandai-je au pilote qui monta à bord dès le petit matin. « Eh bien, tu vois cette goélette de Hambourg, » me dit-il en désignant un navire de tonnage appréciable, ancré à proximité. Le capitaine et 14 hommes viennent d'en mourir. Le cuisinier et 2 hommes sont à l'agonie. Après, il ne restera plus personne. Et par un coup, il m'a appris la vérité. À ce moment-là, à Guayaquil, chaque jour, une 40aine de personnes mouraient de la fièvre jaune. Mais cela n'était encore rien, comme je devais m'en apercevoir ensuite. La peste bubonique et la variole faisaient rage. La dysenterie et la pneumonie déclinaient la population. Et par-dessus tout, le chemin de fer sévissait. Je dis bien, pour les gens qui tenaient absolument à y monter, ils se montraient plus néfastes que toutes les autres épidémies réunies. Et quand nous jetâmes l'ancre devant Guayaquil, Une demi-douzaine de capitaines des autres vapeurs vinrent à notre bord prévenir leurs collègues de le laisser descendre à aucune manière aucun matelot ou officier de son équipage autre que ceux dont ils voudraient se débarrasser. Une barque arriva à me prendre de Durham, tête de ligne du chemin de fer, située sur l'autre côté du fleuve. Un homme sauta de l'embarcation et escalada l'échelle, trois échelons à la fois, tant il avait hâte d'aborder. Une fois sur le pont, avant même d'adresser la parole à l'un de nous, il se pencha sur la lisse et, montrant le poing à la ville, se mit à hurler « Je t'ai eu ! Je t'ai eu !»« Mais qui donc, mon vieux ?» lui demandai-je. « Le chemin de fer !» dit-il en débouclant sa ceinture et en tirant un gros col de 44 de dessous sa veste. « J'ai rempli mon contrat, 3 mois, et il m'a pas eu. Oh, j'y étais conducteur !» Voilà le chemin de fer où je devais travailler. Et ce qu'il me raconta ensuite était guère rassurant. La voie qui partait du niveau de la mer à Durham montait jusqu'à 4000 mètres sur le Chinilorjo et descendait sur l'autre versant jusqu'à Quito, à 3000 mètres du bas. Elle était si dangereuse que les trains n'y passaient que pendant le jour. À la tombée de la nuit, les voyageurs devaient descendre pour aller dormir dans les villes, tandis que le train attendait le retour de la lumière. Chaque convoi transportait une garde de soldats équatoriens plus redoutables que tout le reste. Ils étaient censés assurer la sécurité de l'équipe du train, mais à la moindre alerte, ils attrapaient leurs fusils et se jouaient aux assaillants. Dès que se produisait un accident, les spigotes se mettaient à crier « Mort aux gringos !» et là-dessus, ils massacraient l'équipe du train. Et à tout hasard, les voyageurs, gringos, réchappaient de l'accident. Tout cela, suivant leur arithmétique, qui, ainsi que je vous le disais, diffère totalement de la nôtre. Sacrebleu ! Avant la fin de la journée, je constatais par moi-même que l'ex-conducteur ne mentait pas. Je devais prendre mon roulement dans la première division à Quito et m'y rendais le lendemain matin par le seul et unique train quotidien. Dans l'après-midi de ce premier jour à Durham, sur les 4 heures de les chaumières du gouverneur Haddock, firent explosion et il coula par 60 pieds de fond devant l'embarcadère. C'était le grand bateau transbordeur qui amenait les voyageurs du chemin de fer à Guayaquil, sur l'autre rive du fleuve. Cette catastrophe fut cause d'événements plus graves encore. À partir de 4h30, des trains bondés commencèrent d'arriver. C'était jour de fête, la compagnie avait organisé une excursion dans la montagne et la foule des gens de Guayaquil rentrait. Cette foule, composée de 5000 personnes, voulait passer l'eau et le bateau gisait par le fond. N'y étions pour rien, mais l'arithmétique de Spigots ne l'entendait pas ainsi. « Molo gringos !» gueula l'un d'eux. Et aussitôt tout se gâta. La plupart d'entre nous échappèrent à la mort que de l'épaisseur d'un cheveu. Je courus sur les talons du chef mécanicien, en portant de ses gosses pour rattraper les locomotives qui venaient de démarrer. Car là-bas, loin de tout, en cas de difficulté, on cherche d'abord à sauver les locomotives. Pour la raison que sans elles, pas de train possible. Et quand nous pûmes partir, une demi-douzaine d'Américaines et autant d'enfants étaient blottis près de nous, sur le parquet de l'abri, et les soldats de l'Équateur, chargés de protéger nos vies et nos biens, nous canardaient à qui mieux. Nous avons bien tiré 1000 salves avant que nous fussions hors de portée. Nous campâmes sur les hauteurs et ne revînmes que 2 jours après pour déblayer. Il y avait de la besogne. Plateformes, wagons couverts, fourgons, machines asthmatiques de manœuvre, même wagonnets à main. La population avait tout balancé dans la mer, par-dessus le gouverneur Hancock. Ils avaient incendié la rotonde, 1000 feux dans les dessous d'un charbon. L'atelier de réparation ne ressemblait plus à rien. Il nous fallut aussi enterrer en toute hâte 3 de nos collègues qui s'étaient fait prendre. Là-bas, la température est chaude. Julian Jones marqua un arrêt et par-dessus son épaule étudia l'expression désapprobatrice et le regard fixe de son épouse. « Oh, n'oublie pas la pépite, » dit-il pour me rassurer. « Ni la garce, » lança la femme, apparemment dans l'adresse des sarcelles qui voguaient sur le lac. « Nous arrivons bientôt à la pépite. » « Mais qu'avais-tu besoin de rester dans ce pays maudit ?» lança sa femme. « Allons, Sarah, » implora-t-il, « mais c'est pour toi que je travaillais. » Et en manière d'explication, pour moi, il ajouta, « si les risques étaient grands. » La paye tombait en conséquence. Certains mois, j'ai touché jusqu'à 500 journées. Et Sarah attendait mon retour en Nebraska. « Après 2 années de fiançailles, » confia-t-elle à la tour des bijoux. « Mais elle a gré la grève et mon renvoi comme mineur, et ma typhoïde en Australie, et tout le reste, » reprit-il. « Dans cette compagnie-là, la chance m'accompagnait. Combien en ai-je vu mourir ? Des copains tout frais arrivés des États, quelques-uns pas même une semaine après leur premier voyage. » Si la maladie ou le service ne les tuait pas, c'était les spigotes. Mais mon heure n'avait pas sonné, bien qu'à cette époque, il m'advint de descendre de ma machine au fond d'un éboulement de plus de 10 mètres. J'y perdis mon chauffeur. Le conducteur et le directeur du matériel roulant, ce dernier descendait à Luran pour voir sa fiancée, furent décapités par les spigotes et leurs têtes exposées sur des poteaux. Pendant ce temps, j'étais tapis sous 50 cm de charbon dans le tender. Ben, ils croyaient que j'avais gagné la forêt. Alors j'y restais un jour et une nuit, le temps de laisser l'agitation se calmer. Oh, j'ai eu de la veine. Le pic qui m'arriva fut un rhume et un furoncle. Mais les autres tombaient comme des mouches, tant de fièvre jaune et de pneumonie que les spigotes et le chemin de fer. L'ennui, c'est que je ne pouvais pas me faire d'amis. Sitôt que je commençais à me lier un peu avec un de mes collègues, il mourait, à part un chauffeur du Lord Andrews. Celui-là, il devint fou allié. Je me débrouillais dans mon boulot dès le début. J'habitais à Quito, une maison couverte d'énormes tuiles espagnoles que j'avais louées. En outre, je n'ai jamais eu de grandes difficultés avec les spigots. Je les laissais se balader à l'œil dans le tender ou sur les chasse-vaches. Moi, les vider, jamais. Une fois, Jack Harris en avait expulsé un groupe. Je suivis son enterrement, muy pronto. « Ne parle donc anglais, » adjura la petite dame. « Mais Sarah ne peut pas supporter que je m'exprime en espagnol, » dit-il en manière d'excuse. Ça lui porte sur les nerfs et je lui ai promis de m'abstenir désormais. Comme je le disais, la vie était belle, tout marchait à la papa. J'économisais mes appointements pour remonter au Nebraska et épouser Sarah. Lorsque je tombais sur Valna, la garce, siffla Jaja. Voyons, Sarah, supplia son géant de mari, faut bien que je parle d'elle pour en arriver à la pépite. Ce soir-là, je descendais une locomotive roule-pied à Amato, située à 50 km environ de Quito. Je faisais équipe avec 7 manners. Je le formais au métier de mécanicien et lui faisais conduire la machine, tandis qu'assis à sa place, je rêvassais à Sarah, que voici. Je venais de recevoir d'elle une lettre où, comme d'ordinaire, elle me pressait de rentrer au pays. Il faisait allusion au danger qu'aurait un célibataire comme moi, lâché en liberté dans un patelin rempli de señoritas et de fandango. Bon Dieu, oh, si seulement on avait pu les apercevoir. Une véritable épouvantail, avec leur visage peint, livide, comme ceux de cadavres, et leurs lèvres rouges comme certaines écrasées que j'ai aidé à ramasser. C'était par une superbe nuit d'avril, pas un souffle de vent. Une admirable lune dominait juste la crête du Chimborazo, car c'est une montagne.
La voilà contournée à 4 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, et son sommet se dressait encore à 3 000 mètres plus haut. J'étais peut-être en train de sommeiller, tandis que Seth conduisait la machine, et tout à coup, il bloque les freins, si brutalement que je faillis passer à travers la lucarne de l'abri. « Sacré nom » commençai-je. « Mon Dieu !» s'exclama Seth, comme nous nous penchions pour bien voir ce qui obstruait la voie. C'était une indienne. Et croyez-moi, les Indiens n'ont rien de commun avec les Spigots. En pleine descente de la montagne, Seth avait réussi à arrêter la machine à 5 mètres de l'obstacle. Mais la femme, elle, je vis se raidir Madame Julianne Jones, bien qu'elle continuât de fixer d'un regard menaçant deux sarcelles qui glissaient au-dessous de nous sur les hauts fonds de la pièce d'eau. « La garce !» siffla-t-elle encore d'un ton implacable. Jones s'arrêta net, mais il reprit aussitôt. « C'était une grande fille, svelte et délicate, voyez le genre que je veux dire, avec une longue chevelure noire retombant sur ses épaules. Elle se tenait là, les bras étendus, pour arrêter la machine. Elle portait, drapé autour d'elle, un bizarre vêtement qui n'était pas fait d'étoffe, mais de peau d'oslo, tachetée, douce et moelleuse. « La garce !» murmura Madame Jones. Mais Monsieur Jones poursuivit imperturbable. « Ah, voilà des façons de faire stopper une locomotive !» dit la Seth en descendant sur la droite. J'avançais devant notre machine vers l'Indienne. Elle avait les paupières hermétiquement closes et tremblait si fort que cela se voyait au clair de lune. De plus, elle ne portait aucune chaussure. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» lui demandai-je sans douceur. Elle tressaillit, parut sortir de son extase et ouvrit les yeux, de grands yeux noirs, admirables. « Croyez-moi, cela valait la peine d'être vu. »« Oh, la garce !» À cette exclamation sibilante, les deux sarcelles s'écartèrent précipitamment de quelques pieds. Quant à Jones, il ne sourcilla point. « Mais pourquoi arrêtes-tu cette locomotive ?» lui criai-je en espagnol. Pas de réponse. Elle me considéra un instant, puis regarda la machine qui ronflait. Et tout à coup, elle fondit en larmes. « Mais si tu essayes de t'offrir des balades de cette manière-là, » continuai-je en espagnol, « tu te feras un séjour écrabouillé, et mon chauffeur te ramassera en marmelade sur notre chasse-vache. » Mon espagnol de Spigot n'avait rien de brillant, mais je vis qu'elle comprenait. Pourtant, elle se borna à secouer la tête sans rien dire. « Mais sapristi, elle valait le coup d'œil !» J'observais Madame Jones, non sans appréhension. Elle dut s'en apercevoir, car elle murmura. « Dans le cas contraire, croyez-vous qu'il aurait emmené chez lui ?»« Allons, Sarah, du calme » protesta-t-il. « C'est pas chic. Laisse-moi finir mon histoire. » Alors Seth me cria. « Vas-tu rester là toute la nuit ?»« Viens, » dis-je à l'Indienne, « grimpe. » Mais une autre fois, t'amuse pas à faire des signaux locomotives entre les stations. Arrivé au marchepied, je me tourne vers elle pour l'aider à monter. Plus personne. Je passe de nouveau à l'avant. La voie paraît libre. Éclipsée. À droite et à gauche, c'est la falaise, abrupte et le précipice. Enfin, je la trouve couchée à terre, tout contre le chasse-vache. Si nous avions démarré, nous l'écrasions en moins d'une. Tout cela semblait absurde, et je ne savais que penser. Peut-être cherchait-elle à se suicider. Bref, je l'attrape par le poignet et la remets sur ses pieds assez brusquement. Elle se décide alors à monter. Les femmes savent bien reconnaître quand un homme ne plaisante pas avec elles. Je comparais ce Goliath à sa petite épouse aux pupilles d'oiseau, et me demandait s'il l'avait traitée souvent avec fermeté. C'est trop jamais, bien un peu, mais je la fis entrer dans l'abri et asseoir à côté de moi. Seth devait avoir fort à faire à conduire la machine, remarqua Madame Jones. T'ai-je pas dit que je le dressais à ce métier ? Se défendit Jones. Nous fîmes ainsi le trajet jusqu'à Mato. L'Indienne ne desserra pas les dents. Et sitôt que la machine stoppa, elle sauta en bas et disparut. Pas un merci bien, monsieur, rien de rien. Le lendemain matin, au moment où nous allions mener à Quito une douzaine de plateformes chargées de rails, nous la trouvâmes qui nous attendait dans l'abri. Au grand jour, je la jugeai encore plus remarquable que la nuit précédente. Elle est adoptée, plaisanta Seth. Ma foi, on aurait pu le croire. Elle restait là, à nous trouver du regard, comme un bon chien affectueux que vous auriez attaché avec un chapelet de saucisses dans le ventre, et qui sait très bien que vous ne lèverez pas la main sur lui. Fiche-toi encore de là, lui dis-je pronto. À ce mot espagnol, Madame Jones nous rappela sa présence par un haut le corps. Tu vois bien, Sarah, je voulais pas d'elle, même au début. Madame Jones se raidit. Ses lèvres remuèrent, mais elle ne prononça aucun son. Cette macabre de ses railleries, tu peux tout de même pas la plaquer comme ça, disait-il. Tu lui as sauvé la vie. Erreur, répliquai-je sèchement, c'est toi. Mais elle se figure que c'est toi. Sera bien au même. Maintenant, elle t'appartient, d'après la coutume de ce pays. Tu devrais le savoir. Elle fera ton ménage, blaguait Seth. Je laissais débloquer la machine, mais après je m'occupais à pelleter le charbon afin de ne pas lui laisser le temps de travailler de la langue. En repassant à l'endroit où nous l'avions ramassé, j'arrêtai le train pour lui permettre de descendre. Elle tomba à genoux, m'étreignit les jambes de ses bras et sanglota éperdument. Mais que pouvais-je faire ? Madame Jones nous donna à entendre qu'elle savait à coup sûr ce qu'elle aurait fait à la place de son mari. Bien dès notre arrivée à Quito, elle disparut, comme la veille. Sarah ne veut point me croire quand je lui dis à quel point je me sentis soulagé d'en être débarrassé. Je me rendis donc à ma case et m'expliquai avec un dîner excellent, préparé par ma cuisinière, une métisse du nom de Paloma. Ni indienne, ni spigote. Cette femme était vieille et ressemblait plus à une chouette qu'à une colombe. La seule vue de sa face édentée coupait l'appétit. Elle tenait bien mon ménage, je dépensais pas toute mesure. Cet après-midi-là, après une bonne et longue sieste, qui est-ce que je trouve dans la cuisine, aussi à l'aise que si elle avait été de la maison, ma bougresse d'indienne? La vieille Paloma, accroupie à ses pieds, lui frictionnait les genoux et les jambes comme pour la guérir des rhumatismes. Je savais bien que cette fille n'en souffrait pas, car j'avais apprécié son agilité. Du coup, ma colère éclata. Sarah le sait, je ne puis pas supporter les femmes à traîner autour de moi, surtout des femmes jeunes et pas mariées. Mais que faire ? La vieille Paloma prenait le parti de l'Indienne et jurait de la suivre si elle partait. Et de plus, elle me traitait d'imbécile, de plus de façon que n'en connaît la langue anglaise. Oh, les jours espagnols te plairaient, Sarah, et tu aurais été ravi d'entendre fulminer contre moi la vieille Paloma. Je finis par céder, bien à contre-cœur. La vieille prétextait d'avoir besoin de l'aide de Vanna pour le ménage. Mensonge manifeste. Paloma ne me confia jamais la vraie raison de son attachement pour cette fille. En tout cas, voilà, son drapeau encombrante. Elle restait tranquillement à la maison, bavardante avec Paloma, et lui faisait quelques commissions. Toutefois, je ne tardais pas à deviner chez elle une terreur secrète. Si un copain entrait pour boire un coup ou faire une partie de Pedro, l'inquiétude de l'Indienne faisait peine à voir. Je questionnais Paloma sur les motifs de ce tourment. La vieille prit un air solennel et hocha la tête comme si tous les diables de l'enfer se disposaient à nous envahir. Enfin, un certain jour, Varna reçut une visite. Étant point de service, Je passais la journée avec elle. Il fallait bien lui montrer quelque politesse, même si elle s'était fourrée dans la tête d'habiter chez moi contre mon gré. Quand j'aperçus dans son regard une expression bizarre, sur le seuil de la porte se dressait un jeune Indien qui lui ressemblait, mais en plus jeune et en plus mince. Elle l'emmena dans la cuisine, où dut se tenir grand palabre, car il ne perdit qu'à la nuit tombée. Il revint dans le courant de la semaine, mais j'étais absent. À mon retour, Paloma me mit dans la main une grosse pépite d'or que Valna s'était fait rapporter par le gars. Ce caillou pesait au bas mot 2 livres, il valait plus de $500. Elle m'expliqua que Valna désirait me l'offrir en paiement de sa pension. Il fallut bien l'accepter pour avoir la paix. Puis, longtemps après, surgit une autre visite. Nous étions assis autour du feu.
Lui et la garce,
précisa Madame Jones. Avec Paloma, rectifia Monsieur Jones. Lui, sa cuisinière et sa femme de ménage étaient assis autour du feu, concéda Madame Jones. Je reconnais que Madame témoignait beaucoup d'affection, affirma-t-il, non sans témérité. Mais dans un élan de prudence, il ajouta, beaucoup trop vu que je ressentais pour elle aucune inclination. Donc, comme je le disais, elle reçut une autre visite, celle d'un vieil Indien, grand maigre, aux cheveux blancs, avec un nez crochu comme un bec d'aigle. Il entra délibérément sans frapper. Il en poussa un cri et s'effondra sur les genoux. Elle tourna vers moi, les yeux suppliants, comme une biche qu'on va immoler et qui ne veut pas mourir. Puis, pendant une minute, qui me parut une éternité, l'Indien et Vanna se dévisagèrent. Paloma, la première, parla au vieux dans son langage, car il lui répondit « Ma parole, on lui dit qu'elle s'adressait au Tout-Puissant. Ces vieilles guiboles s'entrechoquaient, et elle s'humiliait devant lui comme une chienne, et cela dans ma propre maison. Bon, j'avais envie de saisir le bonhomme par la peau du cou et de le jeter dehors, mais il était si vieux. Une voix terrible, il crachait littéralement ses paroles à la vieille Paloma, qui s'obstinait à discuter. À la fin, il lui trouvait un argument péremptoire, car le vieillard se radoucit. Il daigna poser une question à Vanna. Celle-ci baissa le front, parut déconcertée, rougit, et répondit en seul mot en secouant la tête. Là-dessus, l'homme tourna les talons et disparut. Je pense qu'elle avait dit non. À la suite de cette scène, Vanna parut troublée devant moi et se confina dans la cuisine. Mais bientôt, elle recommença de se tenir dans la grande salle. Bien que toujours fort timide, elle fixait continuellement sur moi ses grands yeux.
« La garce !»
Cette fois, j'entendis nettement l'exclamation. Mais John, Julias et moi, nous y étions habitués maintenant. « Je crois pas de dire, poursuivit Jones, que je commençais à m'intéresser à elle. Oh, pas dans le sens que ça rend longtemps. Cette pépite de 2 livres m'occupait l'esprit. Si Vanna consentait à me renseigner sur son origine, je pourrais dire adieu au chemin de fer et revenir en Nebraska et retrouver Sarah. Puis ce fut la fin des haricots. Arrive une lettre de Wisconsin. Ma tante Elisa venait de mourir et me laissait sa grande ferme. Je poussais un cri de joie en apprenant la nouvelle. Et là, je fus plus tard complètement dépouillé par les juges et les hommes de loi. Ne me sert pas un cent. Et je les paye encore par un compte. Mais je ne pouvais le prévoir. Je fis donc mes préparatifs pour cingler vers le pays de Dieu. Paloma en fit une maladie. Et voilà, tout en larmes, je vissais. Ne t'en va pas, ne t'en va pas. Je donnais préavis à la compagnie et j'écrivis à Sarah. Pas vrai, Sarah? Ce soir-là, assise auprès du feu, comme à une veillée mortuaire, Vanna consentit pour la première fois à me faire ses confidences.
« Reste ici, me dit-elle. » La vieille Paloma l'approuva du geste.
Je te montrerai l'endroit où mon frère a tiré la pépite si tu ne nous quittes pas. Trop tard, lui dis-je. Je lui en fournis l'explication. Lui as-tu appris que j'attendais son retour en Nebraska? Questionna Madame Jones, froide et impassible. Voyons, Sarah, pouvais-je froisser les sentiments d'une pauvre indienne? Bien sûr que non, je ne lui ai pas appris. Elle et Paloma se parlèrent alors dans leur langue, et Valois me dit « Si tu restes, je te montrerai la plus grosse des pépites, la mère de toutes les autres. »« Grosse comme quoi ?» lui demandai-je. « Moi ?» Elle se mit à rire. Oh, « Plus grosse que toi ?» me dit-elle. « Beaucoup, beaucoup plus. »« C'est impossible. » Mais elle m'affirma l'avoir vue, et Paloma soutenait ses dires. Bref, à les entendre, cette seule pépite valait des millions de dollars. La vieille Paloma ne connaissait jamais vu, mais elle en connaissait l'existence, par oui dire. Cette pépite constituait un secret de tribu qu'elle ne pouvait partager, n'étant qu'à demi-indienne. Julie Jones marqua une pause ponctuée d'un soupir. Alors les deux femmes insistèrent tellement que je finis par me décider pour... Oh, la garce ! Proféra aussitôt Mme Jones. Non, non, pour la pépite. Avec la ferme de tante Elisa, je devenais assez riche pour lâcher le chemin de fer, mais pas suffisamment pour mépriser la grosse galette, et puis je ne pouvais pas m'empêcher de croire que c'est deux femmes. Je pensais devenir un Vanderbilt ou un Paul Morgan, et je commençais à sonder Vanna. Elle ne voulait rien lâcher. « Viens avec moi, répétait-elle. Nous serons de retour dans une quinzaine de jours avec autant d'or que nous pourrons emporter. Nous emmènerons un bourricot ou une caravane de bourricots, proposai-je. Mais rien à faire, Paloma était de son avis. L'aventure présentait trop de dangers. Nous risquions d'être pris par les Indiens. Bref, nous partîmes tous deux quand la lune éclaira les nuits. Voyageons seulement pendant ce temps et nous reposons dans la journée. Vanna m'interdisait d'allumer du feu et mon café me manquait cruellement. Lorsque nous atteignîmes les hauteurs des Andes, dans certains cols, la neige gêna beaucoup notre avance. Mais Vanna connaissait les sentiers. Bien que nous ne perdions pas une minute, il nous fallut une semaine entière pour parvenir au but. Grâce à une boussole de poche que je vais emporter, il me serait facile de retrouver la route. Je ne pourrais me tromper, car il existe par au monde un pic qui ressemble à celui sur lequel nous avions grimpé. Je ne vous décris pas encore maintenant son aspect particulier, mais je vous y mènerai tout droit en partant de Quito. Il n'est pas d'une ascension facile, et celui-là n'est pas encore né, qui pourrait en atteindre le sommet pendant la nuit. Nous y arrivâmes après le coucher du soleil, et il fallait attendre le jour. Je vous en raconterai pendant des heures et des heures sur cette dernière phase du voyage, mais passons. Le sommet, plat comme un billard, mesurait à peu près le quart d'un arpent, et on n'y voyait presque pas de neige. Valma m'expliqua que la violence habituelle du vent l'empêchait de s'y attacher. Nous étions à bout de souffle et le mal de montagne me saisit au point que je dus m'allonger pour prendre quelques repos. Mais quand la lune se montra, j'explorais les parages. Pas plus à la vue qu'à l'odeur, je discernais rien qui ressemblât à de l'or. J'en fis la remarque à Vanna, mais elle se borna à éclater de rire en battant des mains. Là-dessus, mon mal de montagne me reprit, et je m'assis sur un gros rocher en attendant qu'il fût calmé. « Alors, voyons, lui dis-je, quand je me sentis mieux. » « Fais plus la sotte et dis-moi où est cette pépite. »« Elle est maintenant plus proche de toi que je ne serai jamais, » répondit-elle. Et ses grands yeux se remplirent de passion. « Vous autres, Gringos, vous êtes tous pareils. Votre cœur n'a l'amour que pour l'or. À vos yeux, les femmes ne comptent guère. » Je ne répondis rien. Ce n'était pas le moment de lui parler de Sarah, ma fiancée. Mais voilà, chassa vite ses idées mélancoliques et se remit à me taquiner en riant. « La trouves-tu à ton goût ?» disait-elle. « Qui donc ?»« Ben, la pépite qui te sert de siège. Oh, » Je bondis comme si j'avais été assis sur un poêle tout rouge. Je n'y vis qu'un roc ordinaire et je sentis le cœur me manquer. Van Hade, vous êtes complètement folle, vous. Bien, elle avait cru me faire une bonne blague. Je me trompais doublement. Elle me tendit la hachette et me dit de cogner sur le rocher. Je lui obéis, et à chacun de mes coups apparaissaient des plaies jaunes. Par le grand Moïse, de l'or ! Le damné rocher était tout en or. John se dressa soudain de toute sa hauteur et tendit ses longs bras vers le sud. Ce geste sema la panique au cœur d'un cygne. L'oiseau battit en retraite et alla se flanquer dans une vieille dame qui poussa un cri et lâcha le sac de cacahuètes qu'elle tenait à la main. John se rassit et dit « Oui, de l'or, mais d'une telle pureté et d'une telle douceur que j'en détachai les copeaux. » Le bloc était recouvert d'une sorte de peinture grise imperméable. Rien d'étonnant que j'eusse pris pour un rocher. Il mesurait 3,50 m de long et au moins 1,75 m de large, avec les deux bouts arrondis en forme d'œuf. Tenez, regardez-moi cela. Il tira de sa poche un étui en cuir, l'ouvrit et en sortit un objet enveloppé de papier de soie. Il posa dans ma main un copeau d'or de la dimension d'une pièce de 10 $. Je vis sur une face la substance grisâtre qui l'enduisait. Le rocher a une des extrémités, continua Jones en rangeant le copeau. Il me félicite de le mettre dans ma poche, car tout à coup, derrière moi, retentit un cri. Je me retournai et j'aperçus le maigre vieillard au bec d'aigle qui était tombé chez moi un certain soir. Une trentaine d'Indiens l'accompagnaient, tout jeune et vigoureux. Bana s'effondra, s'est mis à pousser des gémissements, mais je lui dis « Relève-toi et tâche d'arranger les choses. »« Non, non, » sanglotait Vanna, « c'est la mort. Adieu, amigo. » Ici, Madame Jones leva la tête et son mari modéra soudain le débit de ses paroles. « Allons, Vanna, relève-toi, » lui dis-je, « pour combattre avec moi. » Alors, ce fut une tigresse qui lutta aux fêtes de la montagne, attaquant les adversaires des dents et des ongles. De mon côté, je ne le chauvais pas, bien que je dise que ma hachette et mes longs bras. Mais ils étaient trop. Quand je revins à moi, un instant après qu'ils m'eurent assommé, venez, touchez cela. En levant son chapeau, Julian Jones guida l'extrémité de mes doigts dans le chaud clair de sa chevelure, et je palpais une brèche d'au moins 7 cm de longueur dans l'os même de son crâne. Revenu à moi, je vis Vanna écartelé sur le bloc d'or. Le vieux bec d'aigle marmottait solennellement, comme s'il accomplissait quelque cérémonie religieuse. Il tenait un couteau de pierre, vous savez, un éclat mince, et coupant de cette matière ressemblant à l'obsidienne, dont ils font des points d'or aux flèches. Je ne pouvais relever, car il me maintenait, et du reste, je n'avais pas la force. Bref, le couteau de pierre servit pour elle. Quant à moi, ils ne firent même pas l'honneur de me tuer au haut de leur rocher sacré. Ils me poussèrent par-dessus bord comme une charogne. Mais les hussards ne m'ont pas eu. Je vois encore, au moment de ma chute, la lune resplendissant sur tous ces pics neigeux. Je fus lancé d'une hauteur de 150 m. Par bonheur, à mi-chemin de la descente, je tombai dans une crevasse pleine de neige amoncelée. Lorsque je repris connaissance, plusieurs heures après, car il faisait plein jour, je me trouvais dans une grotte où un tunnel creusé par l'eau de la fonte des neiges qui coulait par-dessus le bord, juste au-dessous de l'endroit où j'avais été projeté. Quelques pieds de plus en avant et j'allais m'écraser au pied de la montagne. Je ne dus la vie qu'à un miracle. Depuis, je l'ai bien payé. Il m'a fallu 2 années et plus pour me rendre compte de cette aventure. Je me rappelais seulement que je m'appelais Julian Jones, que j'avais été révoqué lors de la grande grève et que j'étais marié à Sarah, que voici. Pas d'avantage. Je ne savais plus rien de ma vie dans l'intervalle. Et quand Sarah a essayé d'éveiller mes souvenirs, j'attrapais des maux de tête. En somme, j'avais le cerveau dérangé. Je m'en apercevais bien. Par une belle soirée de pleine lune, j'étais assis sous le porche de la ferme de son père en Nebraska, Lorsque Sarah sortit de la maison et me vit dans la main ce petit copeau d'or, elle venait de le trouver, paraît-il, dans la doublure déchirée de la valise que j'avais ramenée de l'Équateur. Et moi, qui depuis 2 ans ne savais même plus que j'avais été en Équateur, en ayant en Australie, je regardais ce copeau au clair de lune, le retournais dans tous sens, cherchant à me rappeler d'où il venait, quand, soudain, dans ma tête, se produisit un craquement, comme si quelque chose venait de s'y rompre. D'un seul coup, je revis Vanna écartelée sur l'énorme pépite, et le vieux bec d'aigle brandissant le couteau de pierre. Et enfin, tout s'y m'était avenu depuis mon départ du Nebraska, jusqu'à l'instant où je rampais vers le jour, hors de mon trou dans la neige, après avoir été précipité du haut de la montagne. En revanche, j'avais oublié tous les événements consécutifs à cette chute. Lorsque Sarah me dit que j'allais l'épouser, je refusais de l'entendre. Il fallut pour m'en convaincre le témoignage de toute sa famille et du pasteur qui nous avait unis. Plus tard, j'écrivis à Seth Manners. Le chemin de fer n'avait pas encore tué. Oh, il m'a appris bien des choses. Je vous montrerai ses lettres. Je les ai à l'hôtel. Un jour qu'il faisait son trajet régulier, il me vit déboucher sur la voie. Je ne tenais pas debout, je marchais à 4 pattes. Il me prit d'abord pour un veau ou un gros chien. « Je n'avais plus rien d'humain, » dit-il. « Je ne reconnaissais personne. » Autant que je puisse calculer, il s'écoula 10 jours entre mon ascension de la montagne et le moment où Seth me ramassa. Ce que je mangeais pendant ce temps, je l'ignore, rien du tout peut-être. Paloma, sous la direction des médecins de Quito, me prodigua des soins dévoués. C'est sûrement cette vieille bêtise qui a fourré le bon sonneur dans ma valise. Enfin, on constata que j'avais perdu la raison et la compagnie du chemin de fer me rapatria en Nebraska. En tout cas, voilà ce que m'a écrit Seth. Et ça, c'est à quoi s'en tenir. Elle a échangé une longue correspondance avec la compagnie, ayant mon rapatriement. Madame Jones fit un signe d'assentiment, émit un soupir et témoigna une impatience évidente de prendre congé de moi. « Depuis ce temps, » poursuivit son époux, « je suis incapable d'aucun travail, je ne puis songer à ramener le bloc d'or. L'argent appartient à Sarah. Elle ne serait pas un penny. » « Oh, il ne retournera jamais dans ce pays, » trancha Madame Jones. « Mais Sarah, Vanna est morte, tu le sais bien, » tenta-t-il de discuter. « Je ne sais rien de rien, » répondit-elle d'un ton cassant. « Mais ce pays n'est pas fait pour un homme marié comme toi. » Elle pinça les lèvres et fixa son regard du côté où resplendissait le soleil à son couchant. Un instant, je considérais son visage pâle, menu et implacable, mais respirant la santé. Et comment expliquez-vous la présence d'une telle masse d'or en cet endroit ? Demandai-je à Julian Jones. Un aérolite d'or massif ? Non, pas du tout, il a été apporté là par les Indiens. Sur un sommet aussi inaccessible, étant donné son poids et ses dimensions. Rien de plus simple, dit-il en souriant. Quand la mémoire me fut revenue, je me heurtais longtemps moi-même à ce problème. Mais oh, comment diable, pensais-je en moi-même, et je passais des heures à y réfléchir. Lorsqu'enfin j'eus trouvé la solution, je me fis l'effet d'un idiot. Il marqua une pause et annonça. Ils l'ont pas emporté, mais vous venez de dire le contraire. Ils l'ont emporté, oui, dans un sens. Mais ils n'ont pas hissé là-haut cette énorme pépite. Ils n'ont fait qu'en réunir les éléments. Il attendit jusqu'à ce qu'il vit la compréhension paraître sur mon visage. Ensuite, ils ont fondu tout cet or ou l'ont martelé en un seul lingot. Vous n'ignorez pas que les premiers Espagnols débarqués dans le pays, sous le commandement d'un nommé Pizarre, n'étaient qu'une bande de voleurs et d'égorgeurs. Ils ravagèrent le pays et massacrèrent les Indiens. Ceux-ci possèdent des quantités d'or, alors, ce que les Espagnols ne purent trouver, les Indiens survivants le cachèrent sous la forme de cette masse, au sommet de la montagne. Depuis lors, elle attend mon bon plaisir. Et le vôtre, si vous voulez bien me suivre. Et là, près de la pièce d'eau du Palais des Beaux-Arts, prirent fin mes relations avec Julian Jones. Sur ma promesse de financer l'expédition, il s'engagea à venir à mon hôtel le lendemain matin avec les lettres de Seth, ma mère, et celles de la compagnie du chemin de fer. Mais je l'attendis en vain. Dans la soirée, je téléphonai à son hôtel et la caissière m'informa que M. Julian Jones et son épouse étaient partis au début de l'après-midi avec leurs bagages. Madame Jones a-t-elle ramené en hâte à sa ferme du Nebraska? Je me rappelle qu'au moment de nous séparer, quelque chose dans son sourire évoqua en mon esprit l'expression de Mona Lisa, l'énigmatique. Kuala Hawaï, 5 mai 1916.